sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Et aujourd'hui, Franck, nous vous retrouvons pour une émission spéciale à la Monnaie de Paris. Bonjour Franck.
Bonjour Anissa, bonjour à tous. C'est une émission spéciale que je vous propose puisque nous sommes au cœur de l'Hôtel de la Monnaie, dans la très belle salle Dupré, qui est sans doute une des salles les plus monumentales que le XVIIIe siècle ait laissée dans la capitale. Nous allons être reçus dans un instant par Christophe Beau, le président de la Monnaie de Paris. Nous allons parler de la monnaie, de ce bâtiment, de ses ateliers, de ses missions. Et nous finirons l'émission en beauté, en compagnie de Guy Savoy, qui nous recevra dans son restaurant. Quand je dis dans son restaurant, c'est-à-dire dans les salons du restaurant, mais aussi dans les cuisines.
Au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Bonjour Christophe Beau.
Bonjour.
Merci beaucoup de nous accueillir. Alors, vous êtes venu nous parler de la Monnaie de Paris plusieurs fois en studio, rue François 1er, et cette fois, c'est vous qui nous recevez ici, dans cette salle Dupré, tout à fait magnifique. On est, je raconterai tout à l'heure l'histoire de la construction du monument et l'histoire d'Antoine, on est, je le disais, dans un des plus beaux monuments de Paris, et qui plus est, bien placé. Car, et ce que je vais dire est peut-être subjectif, mais j'ai l'impression que nous sommes dans le plus beau quartier de Paris ici.
C'est effectivement un endroit névralgique de la capitale puisqu'on est en face du Pont Neuf, en face du Louvre, adossé au 6e arrondissement qui comprend un grand nombre de galeries, le quartier de Saint-Germain-des-Prés que tout le monde connaît. C'est à la fois un quartier d'art, de culture, d'histoire et de beauté architecturale.
On a les bouquinistes, la Seine qui coule là devant.
La Seine qui est, dont les rives sont classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc effectivement, c'est peut-être un des plus beaux endroits de Paris et peut-être du monde.
La vue sur l'Institut de France qui est votre grand voisin.
Oui, avec une belle coupole.
Alors la coupole, nous l'avons là au-dessus de notre tête. Quelle est cette salle? C'était la salle de réception? C'est la grande salle de conférence de la Monnaie de Paris?
C'est un peu mystérieux, à vrai dire, parce que la Monnaie de Paris a été construite d'emblée pour être une manufacture royale, un peu comme les Gobelins ou un peu comme les Salines d'Arc-et-Senans. Donc c'est avant tout une manufacture, une usine, et on se demande bien pourquoi il y avait besoin d'une telle salle de bal dans une usine sous Louis XV et Louis XVI. Alors évidemment, la monnaie a toujours véhiculé avec soi des valeurs importantes de la royauté, de la souveraineté. Et donc ce bâtiment était à la fois une manufacture et des logements de fonction pour mes illustres prédécesseurs. Le premier était Condorcet. Donc on peut imaginer qu'à l'époque, il y avait aussi une vie mondaine ici à la Monnaie de Paris qui n'existe plus malheureusement.
Tout à l'heure avec un des historiens de la maison, avec Victor Hunsbeckler, nous allons revenir sur les différents emplacements de la Monnaie de Paris. Ce qu'il faut dire, et vous ne manquez jamais une occasion, Christophe Beau, de le rappeler, vous avez raison, c'est que nous sommes ici dans la plus vieille entreprise de France.
Nous avons fêté l'an dernier nos 1150 ans. Ça peut paraître tout à fait anecdotique. Mais
quand vous
voyez
les restaurants qui indiquent depuis 1950, ça doit vous faire rire.
On les regarde avec beaucoup de compassion.
Cette Monnaie de Paris, quel est son rôle aujourd'hui? Il faut peut-être le rappeler à nos auditeurs.
D'abord, elle fabrique la monnaie des Français, l'euro, dans l'usine de Pessac, qui a été construite dans les années 70.
Donc, c'est tout sa près
mission,
de Bordeaux.
Hein. Voilà, c'est sa mission de service public principale. Et puis, elle fabrique beaucoup de produits d'art, des pièces de collection en or et en argent, des décorations officielles, des médailles, dont une grande partie reste encore fabriquée ici, dans les ateliers d'art parisiens. Et donc, nous sommes en quelque sorte, nous perpétuons des traditions de métiers d'art autour du métal.
Alors, non seulement la Monnaie de Paris a une fonction, je dirais, d'État, très importante, puisqu'après tout, battre monnaie, c'est peut-être l'une des fonctions régaliennes les plus essentielles, mais elle a aussi un rôle, comment pourrait-on dire, culturel, un rôle d'ouverture à la cité et à la société?
En fait, il y a deux raisons qui expliquent ce rôle culturel. La première, c'est que le bâtiment est au cœur de Paris, on l'a dit, donc dans un quartier à forte densité culturelle, et nous avons souhaité ouvrir ce bâtiment aux Parisiens, aux Français, aux touristes étrangers, de manière à leur montrer les beautés de cette manufacture royale. Et d'autre part, les métiers qui sont exercés ont toujours eu un lien avec la culture. Les graveurs, en leur temps, ont toujours été des artistes. D'abord, une pièce de monnaie, c'est d'abord un dessin, et c'est ensuite un geste très précis, très méticuleux, et donc la gravure, ça fait partie des beaux-arts.
Oui, alors nous avons sous les yeux Comment est-ce que je peux décrire ça? Moi, vous savez, je ne suis pas un grand spécialiste de l'art contemporain, c'est un euphémisme. Nous avons tout un tas de vêtements là au milieu du salon. Vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit?
C'est une installation en cours de Christian Boltanski pour l'exposition qui ouvrira la semaine prochaine, le 15 septembre.
Qui va s'appeler Take Me Amios, c'est-à-dire Prenez-moi, je suis à vous.
C'est cela. En français, ça sonne moins bien qu'en anglais. mais l'idée de l'exposition, c'est que les visiteurs pourront emporter des objets. C'est le contraire d'un musée traditionnel où on doit admirer les œuvres sans les toucher. Là, au contraire, les visiteurs seront incités à emporter les objets qui seront présentés. Et ça fait partie de la stratégie d'aujourd'hui de la Monnaie de Paris, d'être en contact avec les artistes de notre époque.
J'espère que tout le monde l'a bien compris, et c'est un peu le but de cette émission que de le dire et le redire. La Monnaie de Paris est ouverte au public. On peut venir ici. Qu'est-ce qu'on peut y trouver dans cette nouvelle Monnaie de Paris?
Alors, on peut y trouver donc des expositions d'art contemporain avec un programme assez audacieux qui met en jeu des artistes vraiment d'aujourd'hui pour montrer que la monnaie et la gravure sont des arts contemporains. On y trouve aussi, bien sûr, le restaurant de Guy Savoy depuis le printemps dernier avec ses 3 étoiles et sa haute gastronomie.
Nous allons le rendre tout à l'heure.
Voilà, qui en fait un des fleurons de la gastronomie française. Et les travaux se poursuivent puisque notre objectif est de rendre l'ensemble du site accessible au public, et donc il y aura bientôt la possibilité pour les visiteurs d'aller bagnauder dans des cours et dans les ateliers eux-mêmes pour voir un petit peu comment est-ce qu'à notre époque on fabrique des pièces d'or et d'argent, et pour découvrir en quelque sorte les arts du métal qui sont préservés ici.
Alors nous allons justement nous promener nous aussi dans l'histoire de la Monnaie de Paris. Je vous propose de revivre la construction de cet édifice extraordinaire qui, en son temps, a été conçu comme une sorte de révolution esthétique.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Et cet après-midi sur Europe 1, c'est une émission spéciale depuis la plus ancienne institution française. Franck Ferrand, vous nous faites découvrir la Monnaie de Paris aux côtés de Christophe Beau, président directeur général de la Monnaie de Paris.
Je me rappelle très bien la première fois que je suis venu ici, vous m'aviez fait les honneurs de la maison, Christophe Beau, et je vous avais demandé qui était l'architecte, parce que, pour être tout à fait honnête, je ne savais pas qui avait construit cet extraordinaire édifice, cet hôtel de la Monnaie en plein cœur de Paris. Et vous m'aviez répondu, oh, c'est Jacques-Denis Antoine. J'avais fait une sorte de sourire entendu, comme si je connaissais ce monsieur depuis toujours, mais la vérité, c'est que je ne le connaissais pas du tout, car, soyons honnêtes, il ne fait pas partie des architectes très célèbres du XVIIIe siècle, même si, au même titre qu'un Soufflot ou qu'un Brongniart, il aura été l'un des maîtres de ce qu'on appelle le néoclassicisme. On est à cette époque tout à fait fascinante du XVIIIe siècle, où le style rocaille, où le mouvement du grand baroque Louis XV est en train de céder la place à un retour à l'antique. Alors, j'avais eu l'occasion à ce même micro de raconter le voyage en Italie du marquis de Marigny. On était en 1750 à cette époque, le marquis de Marigny est le frère de Madame de Pompadour, et il avait choisi ses compagnons de voyage. Il y avait Soufflot, il y avait l'abbé Leblanc et il y avait le grand graveur Cochin. Et tous les quatre étaient partis en Italie. Ils ont fait un périple extraordinaire, un grand tour de 18 mois au cours duquel on peut dire que Marigny est tombé amoureux de la culture et de l'esthétique antique, de sorte que lorsqu'il est rentré à Paris, lorsqu'il est rentré à Versailles, il avait l'intention d'imposer en France ce nouveau style, des colonnes, des frontons, des entablements, tout le grand ordre, si je puis dire. Et c'est ce qui va se passer dans toute la fin du règne de Louis XV et au début du règne de Louis XVI. Et c'est dans ce contexte-là qu'il faut resituer, bien entendu, la construction de cet hôtel de la Monnaie. Alors, qui est Jacques-Denis Antoine? Il est né dans une famille assez modeste. Son père était menuisier. Il est né en 1733. Il est l'aîné de 7 enfants. C'est important qu'il en soit l'aîné parce qu'évidemment, on imagine les espoirs que sa famille va placer en lui. Il a eu une formation, je dirais, assez modeste. Finalement, il n'a pas suivi du tout la voie royale. On n'est pas dans le cadre de ces architectes qui ont étudié chez les grands maîtres, qui ont postulé pour le prix de Rome, qui ont fait eux-mêmes le grand tour, etc. Pas du tout. Jacques-Denis est un autodidacte qui reçoit sa formation chez un maçon, et dès l'âge de 20 ans, on le retrouve entrepreneur en bâtiment avec bientôt une charge, mais qui est une charge assez modeste, d'expert entrepreneur. Tous ses frères vont travailler dans les métiers du bâtiment ou dans le domaine de la construction des arts, etc. Jean-Denis est sculpteur. Une de ses nièces épousera le neveu de Soufflot. On est, vous le voyez quand même, dans ce milieu de l'architecture architecture qui bouillonne et qui est en train de révolutionner le style et l'art en France. Le premier projet de Jacques-Denis Antoine que l'on connaisse date de 1760, donc en 1760 il a 27 ans. C'est un projet de théâtre pour la Comédie-Française qui devait se situer, figurez-vous, quai de Conti, c'est-à-dire très exactement à l'endroit où nous sommes. Avant qu'on installe ici un hôtel de la Monnaie, il était prévu d'y installer la Comédie-Française. Et c'était déjà Antoine qui avait été choisi pour en faire les plans. Ça, c'est assez extraordinaire. Alors, je vais pas vous raconter toute sa carrière. Il a travaillé à un projet de frontispice pour l'église Saint-Nicolas du Chardonnay, qui était vieille d'un siècle déjà, mais dont la façade n'avait jamais été réalisée. Il a travaillé sur un certain nombre de façades, de théâtres, de monuments, etc. Ce qu'on remarque chez lui et ce qu'on apprécie très vite, c'est une maîtrise technique tout à fait extraordinaire et qui est celle d'un homme de l'art, car encore une fois, il a été, si j'ose dire, formé sur le tas, ce Jacques-Denis Antoine. Et ça lui donne, bien entendu, une maîtrise technique, une connaissance des matériaux que n'ont pas un certain nombre de ses confrères, ce qui ne l'interdit pas d'être, par ailleurs, un grand théoricien. L'un de ses biographes, qui s'appelle Lusseau, écrit, je le cite, « À force de veille, il entreprit de lier un commerce intime et habituel avec les commentateurs de Vitruve et autres ouvrages de science, d'art et de littérature. » Vitruve, voyez qu'on nous ramène quand même à l'architecture antique et au grand modèle gréco-romain. En 1765, c'est lui qui va donc être préféré à un certain nombre de ses confrères pour la construction du nouvel hôtel des Monnaies, pour des raisons pratiques, parce qu'on est au bord de la Seine, ce qui permet l'acheminement des matériaux. On décide de réaliser ce projet donc sur les quais, à l'emplacement de l'ancien hôtel de Conti, et Antoine, dans la disposition générale des lieux, décide d'emblée de distinguer la partie administrative de la partie exécutive. Il va associer un palais majestueux, et nous sommes bien placés ici dans cette salle pour en juger, à une manufacture, mais il ne faut jamais perdre de vue qu'à cette époque, et j'étais encore il y a quelques jours à la manufacture royale d'Arc-et-Senans, la Saline, il ne faut jamais oublier qu'à cette époque, la dimension esthétique n'était pas séparée de la dimension pratique. On alliait les deux et l'on faisait, on aimait au contraire créer des lieux qui soit à la fois efficace, utile, nous dirions-nous aujourd'hui ergonomique, mais qui soit le plus beau possible. C'est ce que va faire Antoine ici à la Monnaie. Alors, il est bien placé pour surveiller le chantier, puisque son appartement se trouve au coin du quai de Conti et de la rue Guénégaud, un appartement qui lui a été accordé à titre de récompense de ses services. Disons surtout que c'était un moyen de le faire taire, parce que ses honoraires sont longtemps restés impayés. L'architecte habitera cet appartement jusqu'à sa mort. Les travaux de fondation ici, à l'hôtel des Monnaies, comme on disait à l'époque, les travaux de fondation datent de la fin 69. La première pierre est posée le 30 avril 1771. Et puis deux ans plus tard, on achève sur le quai la grande façade. Le gros œuvre, l'essentiel du décor seront achevés en 1775. Ça, c'est l'année où la Monnaie de Paris s'installe dans le nouvel édifice. 1775, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'entre-temps, on a changé de règne et que ce goût néoclassique de la fin du règne de Louis XV va bien pouvoir prendre son appellation générique. Ça va devenir le style Louis XVI.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Et c'est une émission spéciale cet après-midi sur Europe 1 depuis la Monnaie de Paris. Franck Ferrand, vous nous faites découvrir l'histoire de ce bâtiment situé en plein cœur de la capitale.
C'est peu dire que le bâtiment a été extrêmement bien accueilli par les contemporains. On était ravis de voir surgir comme ça au milieu de Paris cette grande architecture qui assainissait toute une partie des quais de Seine et qui donnait à la Monnaie un véritable palais. Et c'est comme ça que les Parisiens de l'époque l'ont conçu. Voilà ce que dit Lusseau. Antoine concourut au projet hardi et difficile d'étouffer le mauvais goût, de ranimer le génie de l'art, de réformer le caractère et le style, de reproduire le genre antique et de fixer le compas de Vitruve sur des bases solides et inébranlables. Décidément, Vitruve est là et est présent. Et c'est vrai que je pense que dans l'engouement des Parisiens et des Français de l'époque pour ce nouveau bâtiment, entrait la fascination pour les formes nouvelles et pour le goût nouveau. Encore une fois, on en avait fini, si je puis dire, du baroque rocaille et des chantournements de l'ancien style, on entrait dans l'art néoclassique. Voilà ce qu'on trouve dans le journal de Paris à l'époque, donc on est là en 1779. C'est l'un des plus grands édifices construits à l'intérieur de la ville sous le règne de Louis XV. Sa position est des plus heureuses, tant pour la commodité publique que pour l'embellissement des rives de la Seine à l'endroit le plus large de son passage au milieu de Paris. Alors, il y a ici un certain nombre de chefs-d'œuvre, à commencer par le grand escalier, hein, qui est un peu le morceau de bravoure, si l'on peut dire, une disposition toute romaine, avec un vestibule. Le faisceau des colonnes et leur heureuse combinaison offrent à la vue un aspect très nouveau et des effets très piquants lorsque la lumière y circule, écrit le journal de Paris. C'est vrai que la lumière fait partie intégrante de cette architecture. On est dans, bien entendu, dans le cadre de ces grands bâtiments traversants, avec la lumière de part et d'autre, hein, d'un côté sur les cours, de l'autre sur le quai. Et c'est vrai que cette belle lumière du centre de Paris, cette lumière reflétée par la Seine, vient en quelque sorte caresser ce que l'architecture d'Antoine pourrait avoir parfois d'un peu sévère ou d'un peu rigide. À propos de la façade sur la rue Guénégaud, voilà ce que des alliés d'Argenville écrivaient. Monsieur Antoine, dans cette partie, a été livré sans contrainte à tout son génie et son génie l'a bien servi. Aussi est-il un des édifices publics qui a été construit avec le plus de célérité et le moins de dépenses vu son étendue. Mais c'est un modèle finalement. Je pense que Christophe Beau s'est inspiré de l'exemple d'Antoine pour le remaniement de cette Monnaie de Paris et pour lui donner une nouvelle jeunesse. En tout cas, Antoine est fêté, il est célébré, on applaudit sa création et il va entrer à l'Académie royale d'architecture le 11 août 1776. La Monnaie apparaît bien comme le pivot essentiel de l'œuvre et de la carrière d'Antoine, nous dit Monique Mosser. Alors, en parallèle à la Monnaie, il faut quand même vous dire qu'Antoine va réaliser un certain nombre d'autres travaux, notamment pour une clientèle privée. Et comme il est maintenant l'architecte de la Monnaie, et il va intéresser notamment les grands financiers qui, à l'époque, ne l'oublions pas, on est sous le règne de Louis XVI, tiennent le haut du pavé, bien entendu. Alors il va réaliser l'hôtel de Fleury, rue des Saints-Pères, des immeubles rue Saint-Honoré, des hôtels particuliers, etc. Il fait enfin, si j'ose dire, son voyage en Italie en 1777. Et alors, on aurait pu penser que ce voyage, justement, l'ouvrirait à une autre esthétique. Pas du tout. Ce qu'il découvre, ce qu'il aime, ce qu'il va chercher en Italie, c'est ce qu'il y a justement de plus antique et de plus classique. Et lorsqu'il en rentre, alors là, on peut dire qu'il fourmille de projets. Pour l'île de la Cité, il imagine un parvis et des péristyles devant Notre-Dame. Vous imaginez ce que ça aurait pu être. Une sorte d'église de la Madeleine. Il projette de nouvelles façades pour la place Dauphine. Des façades qui font d'ailleurs directement référence à celle de la Monnaie. Il donne également un projet de rattachement du palais du Louvre au palais des Tuileries. Voilà ce qu'il écrit au surintendant des bâtiments en 1782. Plusieurs architectes se sont occupés de tracer des projets de places publiques et d'un théâtre de l'opéra sur l'emplacement du carrousel et de l'hôtel de Longueville. Aucun de ceux que j'ai été à portée de connaître ne m'en ayant paru répondre à la grandeur et à la dignité qu'exige ce superbe emplacement, je me suis fait un programme dans lequel j'ai eu pour objet la réunion du palais du Louvre et des Tuileries, l'établissement d'une magnifique place publique, un monument pour la paix, une statue de Louis XVI, un théâtre de etc. Je m'arrête là. Il y a comme ça une interminable liste des projets qu'Antoine, hélas, ne réalisera jamais. Ce qui est étonnant, c'est de voir la vitalité de cet homme qui, comme bien d'autres, va se trouver saisi par la Révolution. On va l'accuser d'ailleurs à la Révolution, vous savez, au moment où les choses tournent mal, en 1793, on l'accuse d'avoir bâti une sorte de souterrain secret qui aurait permis d'exfiltrer les monnaies, notamment les réserves d'or stockées à la Monnaie, pour le compte d'un certain nombre de partisans de la monarchie. Bref, il est arrêté, il a 60 ans à cette époque, il avait encore pas mal de projets. Il est détenu quelques mois à la prison de la Force et à sa sortie de la prison, il va se retirer au Petit Citeaux en Touraine, dans ce qui est un bien national qu'il avait acquis lui-même. C'est là qu'il mourra le 24 août 1801 à l'âge de 68 ans.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Et jusqu'à 15h, Franck, nous découvrons grâce à vous la monnaie de Paris avec à vos côtés Christophe Beau, président directeur général de la Monnaie de Paris.
Oui Anissa, nous sommes donc toujours au palais, à l'hôtel de la Monnaie, en plein cœur de Paris, quai Conti. On est juste à côté de l'Institut de France, on est en face du Louvre pour situer les lieux à ceux qui connaîtraient mal Paris. J'ai parcouru un peu vite peut-être la carrière d'Antoine, Christophe Beau. C'est quand même le grand homme des lieux, c'est à lui que vous devez tout ça.
Oui, c'est lui qui effectivement a créé cette manufacture royale, ce bâtiment de la Monnaie de Paris, qui auparavant a été disséminé dans plusieurs endroits de la capitale. Et donc lui, il a en quelque sorte regroupé l'ensemble des capacités de production, à la fois pièces de monnaie et médailles, dans un seul lieu prestigieux qu'on connaît aujourd'hui.
Est-ce qu'on lui rend suffisamment hommage, Victor Hensbeckler, à ce monsieur Antoine?
Vous l'avez dit, c'est un architecte parmi les moins connus de la fin du XVIIIe siècle français. Une chose assez étonnante, s'agissant d'un architecte qui a pu bâtir un des plus grands édifices commandés à la fin du règne de Louis XV. Et cette méconnaissance relative du public d'aujourd'hui est due en grande partie au fait que l'inventaire des dessins d'Antoine, un recueil gravé des dessins d'Antoine, toutes ces opérations absolument nécessaires à la connaissance d'un architecte, ces opérations-là n'ont pas été réalisées. Antoine meurt en 1801, sa veuve vend ses dessins, une partie est conservée dans les archives historiques de la Monnaie de Paris.
Tout n'a pas été gravé à l'époque, loin de là.
Rien n'a été gravé, ou quasiment rien. Un grand volume sur les dessins de l'Hôtel des Monnaies, mais la plupart des dessins demeurent inconnus aujourd'hui, et l'on sait par des listes qu'Antoine a bâti à travers l'Europe entière, des palais, des hôtels particuliers, des églises, des plans d'urbanisme, projets réalisé ou non réalisé, mais c'est vrai qu'Antoine, du grand public, est encore relativement inconnu.
J'ai parlé de l'inspiration antique d'Antoine, mais j'ai volontairement passé sous silence sa grande inspiration, son modèle, si je puis dire, qui est Jules Hardouin Mansart, l'architecte de la deuxième partie du règne de Louis XIV.
Oui, vous l'aviez esquissé en disant qu'Antoine, n'effectuant pas le cursus honorum classique, en ne passant pas par l'Académie royale d'architecture, en n'effectuant pas son voyage d'Italie avant l'achèvement de la Monnaie, tout simplement parce que c'est la Monnaie qui lui a offert les moyens financiers d'effectuer ce voyage, Antoine ne s'était pas confronté directement à l'architecture antique. Et l'influence principale d'Antoine est une influence de médiation. Son néoclassicisme est un revitalisme grand siècle.
Ah, j'aime bien l'expression, un revitalisme grand siècle. C'est-à-dire qu'il donne vie aux formes et aux structures qui étaient celles du règne de Louis XIV, en fait.
C'est cela. L'architecture antique, il la découvre par l'entremise d'Hardouin Mansart, de Mansart également, un petit peu plus tôt. Mm-hmm. Et c'est dans cette filiation-là qu'il s'inscrit.
Et c'est vrai qu'il y a, bien qu'on sente tout à fait qu'on est dans un édifice de la toute fin du XVIIIe siècle, mais il y a quelque chose de l'inspiration Louis XIVienne, dans la grandeur, dans l'amplitude d'une architecture qui se veut spectaculaire, pour ne pas dire même quasiment théâtral. Pourquoi une telle théâtralité pour un lieu qui, après tout, est quand même destiné à frapper des monnaies ?
Vous avez tout à fait raison de parler de théâtralité. Antoine revient à une dimension de l'architecture qui avait été quelque peu ignorée au début du règne de Louis XV. Il revient à une architecture parlante et à travers sa très longue façade sur le quai de Conti pour la Monnaie de Paris, il veut signifier la force, la puissance, la durabilité d'une monnaie. Et c'est un des mérites principaux de cet édifice.
Et c'est ce qui nous vaut d'être dans cet endroit magnifique. Alors, comme d'habitude, je signale à chaque fois que nous faisons des déplacements comme celui-ci, vous pourrez trouver très bientôt sur le site internet d'Europe 1 des images. C'est Marion Sauveur qui est à la caméra aujourd'hui et qui va nous rapporter de magnifiques images de cette émission. Nous avons beaucoup de chance en ce début de saison puisque nous avons les plus beaux décors qui soient. Hein, entre la chambre du roi à Versailles et l'extraordinaire golf d'Évian, nous sommes gâtés, si je puis dire. Ça va être difficile après tout ça de rentrer dans nos studios de la rue François Ier. Alors, cette monnaie de Paris a été l'un des grands projets de la fin du règne de Louis XV, mais il faut dire qu'elle existait depuis très longtemps, bien entendu, et qu'elle s'était pas mal promenée à travers la capitale.
Oui, tout à fait. Comme prérogative régalienne par excellence, la monnaie, le fait de battre monnaie, a suivi le roi et s'est installé dans un premier temps au plus près du pouvoir royal, dans le palais, sur l'île de la Cité, puis à l'emplacement du souvenir qui reste marqué sur le plan de Paris, cette rue de la Monnaie. Et puis on a parlé de ce grand chantier du règne de Louis XV. La Monnaie n'aurait pas dû, dans un premier temps, s'installer qu'à Conti. Elle aurait dû prendre place et s'inscrire dans cet autre immense projet du règne de Louis XV. Vous aviez parlé de Marigny. La Monnaie aurait dû être logée derrière la façade occidentale de l'actuelle place de la Concorde, au revers de la façade dissimulant l'hôtel célèbre actuellement. Et les fondations avaient été réalisées quand une action en justice des métiers maniant les métaux précieux a arrêté net le processus sous prétexte que la place Louis XV était trop loin du centre traditionnel des affaires.
Alors vous êtes le conservateur des collections de cet hôtel de la Monnaie. Qu'est-ce qu'il y a dans les collections en question ? Il y a de très vieilles monnaies, j'imagine ? Enfin, j'espère.
Alors il y a des monnaies, mais il n'y a pas que des monnaies. On a des collections assez riches, comme dans beaucoup d'anciennes manufactures royales, qu'on estime aux alentours de 140 000 objets. Et sur ces 140 000 objets, nous avons environ 35 000 monnaies.
Et c'est considérable.
L'autre partie importante des collections constitue ce que l'on appelle les archives métalliques des rois, les archives métalliques de la Monnaie de Paris, toutes ces archives de création.
Archives métalliques, c'est-à-dire sont des médailles ?
Ce sont des médailles, mais ce sont surtout les matrices de fabrication de ces médailles, donc qui sont l'œuvre princeps pour la médaille, l'œuvre première gravée par les graveurs de la Monnaie depuis les origines et dessinée par les graveurs, mais également par des artistes de l'ancienne Académie royale de peinture et de sculpture.
Le public peut les voir ?
Le public pourra les voir bientôt à l'achèvement des travaux dans le nouveau parcours muséographique qui ouvrira.
Et je vous vois regarder Christophe Beau en disant ça. Ça s'achève quand tout ça, Christophe Beau, ce grand, grand travail ?
Normalement en 2017.
Oui.
Voilà. Finalement, nous aurons mis plus de temps à rénover le bâtiment.
Qu'à le construire.
À le mettre aux normes d'aujourd'hui qu'à le construire deux siècles plus tôt.
Oui. Alors, il faut parler des ateliers quand même. Parce que ici, vous nous l'avez dit d'un mot tout à l'heure, ici même, on continue à travailler le métal.
Oui, c'est d'ailleurs la principale caractéristique de ce bâtiment, c'est d'être toujours une manufacture. Il y a une centaine d'artisans d'art qui travaillent le métal, aussi bien le bronze que l'argent, que l'or, pour fabriquer des pièces de collection, pour fabriquer des objets assez magnifiques, comme par exemple cette pièce que nous fabriquons en ce moment en partenariat avec la manufacture de Sèvres, une pièce d'un kilo d'or qui reproduit le fameux sein de la reine et qui est émaillée avec le bleu de Sèvres si célèbre. Et donc c'est un objet assez fantastique qui sera proposé aux collectionneurs les plus pointus de par le monde. Et donc voilà, nous avons une gamme de produits et de créations qui est tout à fait intéressante.
Qui décide de ces créations, c'est vous ?
Non, c'est un travail très collectif.
Il y a une c'est pas une monarchie absolue ici.
Non, pas du tout. Il y a une direction du marketing qui fait un travail en amont de réflexion. Et il y a surtout, c'est le cœur de la maison, c'est son joyau, l'équipe de gravure. Et donc, alors, Joaquin Jiménez est le représentant.
Et voilà, bonjour Joaquin Jiménez. Vous êtes donc le responsable artistique de l'atelier gravure de la Monnaie de Paris et responsable de la création. Vous avez donc entre les mains, si je puis dire, les destinées de nos médailles et de nos monnaies. C'est vous qui créez le style d'aujourd'hui ?
On peut dire ça comme ça. On travaille beaucoup avec aussi le marketing. Et c'est vrai que nous sommes à l'origine, bien sûr, des dessins des monnaies de collection et des monnaies de courante.
Alors, les graveurs qui travaillent pour la Monnaie de Paris sont ici à demeure ou bien est-ce qu'ils travaillent chez eux ? Comment est-ce que ça se passe ?
Non, ils travaillent ici à demeure,
oui.
Bien sûr. On a quelquefois quelques intervenants sur de la réalisation, mais tous les graveurs sont in situ.
Oui, et quel est le parcours ? Comment est-ce qu'on devient graveur de la Monnaie de Paris ?
Les parcours sont divers, nous sortons tous d'écoles d'art, Boulle, Estienne, et les Beaux-Arts, pour ne pas les nommer. Et ensuite, on les forme à l'intérieur de la Monnaie, parce que nous sommes ici un conservatoire des techniques ancestrales, bien sûr. La Monnaie de Paris, comme on l'évoquait, est une vieille maison, une très ancienne maison, mais elle vit aussi avec son temps. On les forme à ces anciennes techniques et on les forme aussi à des techniques contemporaines de création.
Alors, en quelques mots seulement, mais quelles sont les grandes étapes de fabrication d'une médaille ou d'une monnaie ?
Alors, comme le disait Monsieur Beau tout à l'heure, ça, tout commence par le dessin, la création, parce que comme vous l'imaginez, illustrer les valeurs de la République, ça se fait pas comme ça.
Oui, ça s'improvise pas comme ça, non ?
Ça s'improvise pas, on travaille des thèmes, on travaille sur l'histoire aussi, bien entendu, donc il faut beaucoup se documenter, et on dessine en premier temps. Ensuite, on passe à un modelage de ce dessin. Ce modelage est palpé soit par des techniques anciennes, évidemment classiques, on va dire, soit des techniques contemporaines de palpage laser, par exemple. Et on réalise l'outillage ensuite en creux d'après ces plâtres, ou ces gravures directement dans du laiton maintenant et dans de l'acier. Et puis on réalise ensuite la monnaie, on frappe la monnaie.
Dans, la médaille. Dans du bronze, là.
Dans du bronze, dans de l'or, dans de l'argent, c'est ce qui fait. Christophe, tout à l'heure, nous indiquait cette dernière création là sur le bolsin de la reine Marie-Antoinette, qui était une gageure aussi. On essaye aussi d'innover, de pousser plus loin les possibilités, les techniques.
Et de repousser constamment le niveau, si je puis dire. Il y a une excellence dans
On essaye.
Vous êtes un des lieux de l'excellence artisanale en France, il faut le dire, artistique et artisanale.
Oui, c'est pour ça qu'on considère que c'est aussi un conservatoire et que c'est très important. Nous avons aussi un devoir de transmission. Beaucoup d'élèves des écoles d'art, notamment Boulet, viennent en stage pour se former à ces techniques et pour pouvoir les pérenniser.
Nous avons un visiteur, figurez-vous. Bonjour Nicolas Drabaudy.
Bonjour Franck.
Je suis ravi de ce genre de happening comme ça lorsque nous nous déplaçons. C'est avec vous que je suis allé dîner pour la première fois chez Guy Savoy, ici à l'hôtel de la Monnaie. Et puisque je parlais d'excellence, on peut dire que en matière culinaire, c'est aussi de l'excellence qui se forge là-bas.
Je pense que la Monnaie de Paris et Christophe Beau s'est pas trompé.
Il a fait le bon choix.
Un des plus grands cuisiniers de France, qui est 3 étoiles depuis l'an 2000 et qui pratique une cuisine à la fois moderne, créative et traditionnelle et qui s'est adapté magnifiquement à ce lieu. En d'autres termes, l'architecture rejoint la bonne chère, le style de travail. Et pour Guy Savoy, il faut le dire, un enfant de Bourgoin-Jallieu, c'est le couronnement d'une vie ici. On pouvait pas rêver mieux puisque très peu de restaurants sont dans des monuments historiques. Ici, c'est le cas.
Eh bien, vous en parlez très bien, Nicolas Drabaudy, mais ce que je vous propose, c'est d'aller lui donner maintenant la parole.
Extrait de Musique sur l'eau d'Endel sur Europe 1. Franck, vous êtes cet après-midi à l'hôtel de la Monnaie de Paris et c'est une surprise gourmande que vous nous réservez.
Quelle plus belle façon de finir cette émission que de rendre visite à Guy Savoy chez lui, à l'hôtel de la Monnaie. En entrant dans le restaurant de Guy Savoy, on peut lire cette phrase qui est transcrite en néon rouge. La cuisine est l'art de transformer instantanément en joie des produits chargés d'histoire. Bonjour Guy Savoy.
Et bonjour, bienvenue.
Merci de nous accueillir. Un restaurant dans un monument historique, ça n'est quand même pas banal.
Alors je dirais oui, enfin c'est même unique quoi. Bon, on a de nombreux bâtiments historiques et de nombreux musées ont un restaurant, mais parfois un peu plus simple. Bon, la volonté de Christophe Beau ici, c'était de faire un haut lieu, je dirais de l'artisanat d'art, puisque tout autour du travail de la monnaie, des médailles, enfin des pièces,
tension vers l'excellence qu'on a senti avec
voilà,
tout à l'heure.
Il voulait absolument associer les métiers de la restauration, on va dire de haut niveau. Il voulait absolument que ces murs soient habités par un restaurant de qualité.
Ces murs, vous les connaissiez, mais de l'extérieur, car le quartier, vous en êtes un familier.
C'est assez troublant, parce que ça fait bien 35 ans que mon lieu de flânerie du samedi matin, c'est la rue Guénégo, la rue Callot, la rue de Seine. Ce sont toutes ces rues qui ceinturent la Monnaie. Et je voyais ce grand bâtiment quand même un peu austère de l'extérieur. Et c'est vrai que je n'avais jamais poussé la porte. Et je n'avais jamais traversé ces cours sublimes où on a l'impression de traverser un livre d'histoire. Vous savez, le soir, quand je pars, je me faufile là dans le chantier qui n'est pas tout à fait terminé et puis je sais pas, j'ai l'impression.
L'histoire est présente ici. Quand on dit l'histoire, d'ailleurs, c'est ce qu'il y a de plus beau, de mieux, de plus excellent justement dans notre passé. C'est ça qui est présent ici dans cet hôtel de la Monnaie.
Paris déjà est unique.
Grâce à ses voit là par les fenêtres.
Absolument. Par ses 11 fenêtres, on voit le Paris. Enfin oui, le Paris historique quoi. La Seine, le Vert-Galant, le Louvre, le Pont des Arts, l'Institut, le Pont Neuf. Enfin, on est au cœur du Paris. Du Paris historique, absolument. Elle est unique. Des vues spectaculaires, on peut en avoir nombreuses sur la planète. Mais sommes-nous à Tokyo, à Hong Kong, ou à Singapour, ou à Shanghai ? Là, dès que l'on regarde, on est certain, c'est Paris. Et c'est le Paris qu'on aime.
Ah oui, c'est le vrai Paris, pour le coup, historique. Ouais. Les salons de votre restaurant ont été décorés par Jean-Michel Villemotte.
Absolument.
Et vous avez peuplé ces salons de vos propres collections, il faut le dire.
Alors non, d'abord la collection de François Pinault. Bon, les principales œuvres qui sont au mur ici sont prêtées par François Pinault, donc issues de sa collection personnelle. Et c'est vrai que moi j'ai des affinités avec Fabrice Hibert, et Fabrice a fait, bon, dans la pièce dans laquelle nous sommes, il a fait le, si on peut dire, le plafond, qui est un peu une compilation des choses que j'aime. On voit de l'artichaut, des œufs, enfin il y a plein de choses. Et puis les sculptures à la fois l'homme de Bessines, et puis une magnifique sculpture qu'il a appelée Cellular Man. Voilà, donc en fait avec des pièces, enfin ce qui pourrait être des pièces de monnaie.
Donc c'est tout à fait indiqué pour la monnaie. Notre ami commun Nicolas Drabaudy, qu'on entendait tout à l'heure et avec qui je suis venu dîner chez vous il y a quelques semaines, me disait que selon vous, le restaurant était le dernier lieu de civilisation. Est-ce que vous pouvez m'expliquer
ça? Ce dernier lieu civilisé, pourquoi? Mais pour des raisons très très simples. Citez-moi un autre lieu où vous êtes pris en charge dès le début, je dirais. Vous avez un voiturier qui prend votre voiture. Bon, c'est tout simple. Mais
c'est non seulement pratique, mais c'est très élégant.
C'est surtout confortable, déjà. Confortable, après, on vous installe et vous avez tout autour de vous des gens qui viennent pas vous donner des leçons, mais vous informer. Voilà, un maître d'hôtel va vous éclairer sur les plats de la carte en tenant compte de vos goûts. Le sommelier va faire de même, surtout, encore une fois, en tenant compte de vos goûts. Et je dirais, le balai va commencer où toutes ces équipes, tous ces métiers qui composent le travail d'un restaurant, va faire le maximum pour votre bien-être. Donc, je ne connais pas d'autre lieu que le restaurant.
Et le restaurant comme lieu civilisationnel, c'est
magnifique.
Absolument.
Et puis alors, c'est vous qui maîtrisez votre temps. Si vous voulez dîner en 2 heures, c'est tout à fait possible. Si vous voulez le faire en 4, 5 ou 6 heures, c'est également tout à fait possible.
On peut dire que chez vous, la cuisine est une affaire de famille. Vous avez été à bonne école.
Absolument. J'ai la chance d'avoir une maman qui cuisine très très bien. Et c'est vrai que très très vite, ma priorité, ma ponctuation plaisir dans la journée, c'était d'abord le petit déjeuner. Après, dans la première partie de la matinée à l'école, je pensais à la pomme que j'allais manger à la récré, pomme que glissait mon papa tous les matins dans nos cartables, mon frère, ma sœur et moi-même. Et après, et dans la deuxième partie de la matinée, je rêvais déjà ce qu'il y allait avoir au déjeuner. Et après, c'était le goûter, c'est tout ça. Donc, vraiment, ma journée était ponctuée par ces plaisirs. Plaisirs qui sont devenus, pour moi, primordiaux, quoi. Parce qu'on était dans le concret. L'école peut être très vite abstraite, quoi. Enfin, dès qu'on sait lire, écrire et compter, bon. Et là, la voir, en fait, transformer les produits, c'est ce qui me touche, moi, dans la cuisine, au-delà des, bien sûr, de la qualité des produits, mais ça va de soi. Mais après, c'est de faire passer ces produits de l'état de comestibilité à l'état de plaisir. Parfois en quelques secondes.
J'ai l'habitude dans cette émission, vous le savez, Guy Savoie, de raconter la vie des gens. Et ce serait passionnant de raconter la vôtre, et notamment votre formation, de parler des trois gros, de parler... Nous n'allons pas le faire aujourd'hui, ça n'est ni le moment ni le lieu. Ce qui me ferait très plaisir, puisque nous avons des micro-baladeurs, comme on dit, c'est d'aller de l'autre côté, là-bas, de sortir des salons et d'aller dans vos cuisines, d'aller au piano, comme on dit.
Absolument.
Pour voir la préparation de toutes ces merveilles. Un mot peut-être, car je sais que ça fera plaisir à beaucoup de nos auditeurs, un mot sur Bernard Loiseau, qui, je sais, occupe dans votre cœur une place particulière.
Ah, Bernard, bien sûr. Bernard, c'est le complice. Vous savez, dans une époque où on faisait encore le service militaire, on parlait des copains de régiment. Alors, imaginez un copain de régiment de 35 ans, quoi. Voilà, donc, c'était l'apprentissage ensemble. C'est lui qui, un jour, me voyant vider des poulets dans un restaurant dans lequel je travaillais à Genève, qui me dit cette phrase, mais terrible, mais qui m'a mis un coup de pied aux fesses. Tu vas pas passer ta vie à vider des culs de poulet. Et là, c'est vrai qu'il y a eu un équipe. Moi, j'ai beaucoup insisté sur ma formation. Donc, j'ai fait beaucoup de maisons pour justement avoir ce socle, qui permet après, de bien maîtriser son métier et puis de pouvoir continuer. Voilà. Et Bernard, après, c'était une complicité. C'est lui qui, lorsque cette troisième étoile était longue à venir, me disait, mais tu vas voir, elle va arriver un jour. Et puis, vous savez, avec son enthousiasme. Non, c'était Bernard, c'était le, complices, quoi. Voilà. Donc, je suis un peu. On s'appelait, peut-être pas tous les jours, mais en tout cas 5 fois par semaine. Alors, vous imaginez le vide.
Pour exercer un art comme le vôtre, il faut avoir, comme dirait Paul Bocuse, le feu sacré.
Oui, il faut avoir, bien sûr, la passion. Hein, on peut pas. Mais cette passion, elle est tellement récompensée, je dirais, ne serait-ce que déjà par cette transformation. On est dans un monde qui est de plus en plus virtuel. Nous sommes en permanence dans le concret, quoi. Le produit, il est là. Et simplement sous l'action du cuisinier, on le transforme. Et en direct, je dirais, c'est unité de temps, de lieu et d'action, puisque tout se passe. Je veux dire, le poulet, quand vous le mettez au four, vous n'allez pas le ressortir 2 jours après. Ça va être, 40 ou 50 minutes après. Filet de rouget, c'est quelques secondes. Et dès que l'assiette est prête, tout aussi instantanément, le convive de l'autre côté de la cloison va pouvoir le déguster.
Ça, c'est merveilleux. Voilà. On entend, je pense que nos auditeurs entendent les bruits de la cuisine. Maintenant, votre brigade est à l'œuvre. Qu'est-ce qu'on vient déguster quand on vient chez Guy Savoie à la Monnaie?
Bon, bien sûr, des produits de saison, travailler avec un style bon, qui appartient à la maison. C'est ça aussi ce que viennent chercher les convives dans une maison. Je préfère le mot maison que le mot restaurant.
Oui, c'est bien.
C'est de trouver un style. Et chaque belle ou grande maison a un style, aussi bien dans l'assiette, dans l'atmosphère, dans les œuvres qui sont au mur. Sûr, oui. Et tout ça. Donc, on doit créer un lieu ben, unique qui doit ressembler à l'animateur, si je puis dire.
Alors, je ne sais pas si c'est parce que les micros de la radio sont en cuisine cet après-midi, mais on n'entend pas beaucoup de bruit, finalement. Tout ça se passe dans une sorte de douceur.
C'est vrai que c'est un peu... Alors, on a gagné tellement en espace et en lumière que... Alors, je peux dire qu'aujourd'hui, je suis sûr, l'espace et la lumière donnent de la sérénité aux équipes. C'est vrai, il n'y a plus le côté un peu sur-régime qu'on pouvait avoir dans la minuscule cuisine de la rue Troyon. Ici, on a de l'espace, il y a des fenêtres. Ce serait un appartement, on dirait. Il est traversant. Et quand on voit la vue, bon, d'un côté, ce sont les cours de la Monnaie.
Et de l'autre,
et de l'autre côté,
les quais
on voit l'Institut,
et la Seine.
On voit l'Institut. Et,
ah oui, tout à fait. Extraordinaire.
Et des bâtiments.
Merci beaucoup de nous avoir fait rêver, Guy Savoie. J'imagine qu'un certain nombre de nos auditeurs, bien qu'il soit 15h, vont maintenant se remettre à table. Donc, bon appétit à ceux qui ont encore faim, bien entendu. Merci. De votre accueil.
Merci.
Je rends l'antenne à Anissa et à Marion Ruggieri. Bonjour, Marion.
Bonjour, Franck. Le sexe est-il devenu un produit de consommation comme un autre? C'est la question que l'on se pose aujourd'hui jusqu'à 16h, alors que les applications de drague sur mesure se multiplient et que les sites extra-conjugaux font parler d'eux en une des journaux. On y répond avec la sociologue Catherine Lejal, mais aussi le producteur de film X, John Birut.
Merci beaucoup et je vous donne rendez-vous demain pour le Grand Portrait et à lundi pour un nouveau numéro d'Au cœur de l'Histoire.
À demain, Franck. Très bon week-end avec Europe 1.